Frères et sœurs, je vais commencer aujourd'hui le sermon avec un récit de l'Ancien Testament en Exode chapitre 3. C'est quelqu'un que nous connaissons bien par les Écritures. C'est un homme qui est connu comme pour son humilité. C'est un homme qui est connu pour avoir fait la volonté de Dieu malgré sa manque de confiance en soi. Il ne pensait pas que c'était possible que ça soit lui que Dieu puisse choisir pour cette grande tâche de mener le peuple de l'Égypte, le peuple d'Israël, pour la sortie d'Égypte. Mais quand Moïse avait déjà vécu un bout de temps, il était déjà parti d'Égypte, comme nous avons appris en hébreu, et d'autres endroits, et en plus, bien sûr, ici en Exode. Il était parti parce que il était exilé, si vous voulez, de l'Égypte après avoir tué un homme. Et il était avec son beau-père dans le pays de Madian. Et nous avons, bien sûr, en tête, avec plusieurs reprises, les détails de cette histoire. Mais pour moi, je suis toujours impressionné, je suis toujours touché par ce rencontre avec l'Éternel dans Exode chapitre 3. Pour moi, ça me touche toujours de lire, de relire, d'étudier, de méditer cet événement majeur dans la vie de cet homme de Moïse. Commençons à lire aujourd'hui au chapitre 3 du livre d'Exode et nous pouvons examiner, nous pouvons considérer, contempler ce grand événement qui a eu lieu dans la vie de Moïse et la réponse de Moïse à cet événement. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Avec ce récit en tête, je vais vous demander aujourd'hui de faire quelque chose avec moi. Enlevant nos souliers. Enlevant nos souliers aujourd'hui. Vous pouvez vérifier après, je l'ai fait. Je suis un peu moins grand maintenant. J'ai plus le grand talent en dessous de mes souliers. Est-ce que ça vous fait du bien d'enlever les souliers ici à l'Assemblée? C'est pas quelque chose qu'on va faire toutes les semaines. Mais c'est pour une leçon importante aujourd'hui. En fait, plusieurs leçons importantes aujourd'hui. Nous avons enlevé nos souliers, pas parce que ici, au Sheraton, ce petit terre ici est un terre saint ou quelque chose de très précieux, une sorte de lieu saint. Mais nous sommes quand même en présence de Dieu aujourd'hui. Nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés et parce que nous avons répondu à cet appel de Dieu. Nous sommes là parce que nous avons obéi à Dieu et c'est Dieu qui nous a invités de venir se présenter devant lui aujourd'hui Et je suis tellement content qu'il y a un bon nombre d'entre vous ici dans la salle, parce que ça marche tellement mieux que on avait peut-être déjà les souliers enlevés dans la maison. Mais ici, on a enlevé nos souliers pour souligner que c'est Dieu qui demande à nous de venir en sa présence. C'est Dieu qui a ouvert la porte pour nous, qui nous a appelés, qui nous a donné la possibilité, la force même de venir, d'être ici encore vivant une semaine de plus. C'est une bénédiction chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que nous, sans enlever les souliers, est-ce que nous arrivons à l'apprécier de la même façon? Je crois que l'idée d'enlever les souliers, ça nous fait un rappel physique que nous avons besoin de reconnaître Dieu dans notre vie et que de venir dans sa présence, c'est une chose importante. Ce n'est pas n'importe quoi. On n'est pas dans une simple réunion, une rencontre ici. Des fois, j'ai essayé de communiquer avec l'hôtel en disant, nous avons une rencontre, un rendez-vous, une réunion. Des fois, j'hésite pour dire, nous aurons une assemblée ici, mais ils sont au courant de ce que nous faisons ici. Malgré tout, ils ne mettent pas assemblée de l'Église de Dieu, des choses comme ça, et d'âme. Ils mettent rencontre quand ils font le panneau, l'affichage. Mais nous le savons, nous reconnaissons celui qui nous a appelés ici, n'est-ce pas? Considérons, en gardant la place ici, Jean 6. C'est Dieu qui nous appelle. Jean chapitre 6, c'est Dieu qui nous a invités ici aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a invités dans sa présence. Est-ce que nous sommes conscients que c'est lui qui agit, c'est lui qui nous donne la possibilité de venir, de connaître sa vérité? Jean 6. Nous voyons ici, dans ce chapitre, un vrai miracle de la part de Jésus-Christ, la multiplication des pains. Et nous voyons qu'après cet miracle, les disciples voulaient que ce pain qui vient du ciel, ils avaient appris la leçon par rapport à Jésus-Christ, ils voulaient que Jésus leur donne du pain toujours, toujours. Lisons au verset 32, « Je leur dis, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Après tout ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que ça vous donne quand même, ça vous touche plus de lire ces versets ici? Verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je souligne ici l'idée de venir à lui, de venir devant Jésus-Christ, le Seigneur. Verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Aujourd'hui, en Ontario, il y a une famille qui pleure le décès de Madame Dawn Belair. Une partie de la famille croit dans cette deuxième avènement de Jésus-Christ pour ressusciter ceux qui dorment en Jésus-Christ. Ce sont des paroles encourageantes. Mais ici, nous continuons, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Mais tout ceci commence à cause du fait que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour nous donner accès à ce pain de vie, n'est-ce pas? Ce pain de vie qui demeure éternellement. Continuons à lire. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Voici le verset 44, nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nous sommes attirés ici. Nous sommes attirés parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons pu observer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Nous avons pu comprendre que la parole de Dieu est la Bible. La parole se trouve dans la Bible. Et notre enseignement, notre encouragement, notre correction vient de cette parole pour tous les jours de notre vie. Pas simplement de temps en temps, mais ils sont applicables pour tous les jours de notre vie. Mais pour sortir d'Égypte, il fallait que les enfants d'Israël marchent, n'est-ce pas? Il fallait qu'ils marchent, il fallait qu'ils suivent Moïse. Il fallait qu'ils suivent Moïse qui suivait les signes de Dieu. On a un rappel ici au verset 48, « Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Est-ce que nous avons appétit? Est-ce que nous sommes prêts? Quand nous sommes invités ici chaque semaine ou pour les autres fêtes de l'Éternel dans toute l'année, est-ce que nous avons appétit à consommer ce pain de vie davantage? C'est comme si Dieu prépare un repas spirituel pour nous chaque semaine. C'est comme si c'est Dieu qui prépare la table, qui prépare la place pour notre rencontre avec lui. Nous avons une opportunité chaque semaine de se présenter devant Dieu. Le sabbat figure dans la liste des fêtes de l'Éternel dans Lévitique 23, parce que le sabbat est important. C'est un jour qui est sanctifié par Dieu. Et donc nous nous approchons de Dieu chaque sabbat. Mais est-ce que nous nous approchons avec tout ce qui est les souliers de la semaine? Est-ce que nous sommes prêts, quand nous nous approchons de lui, d'enlever nos souliers, si c'est juste dans une façon spirituelle? Parce que tous les jours, nous nous approchons de Dieu dans nos prières aussi. Nous nous mettons à genoux, nous baissons la tête, nous prions Dieu et nous nous approchons de lui. Ici, aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est une fête de l'Éternel aussi. Mais nous avons accès, à cause de Jésus-Christ, nous avons accès au trône de Dieu. Plus d'intermédiaires humains entre nous et notre relation avec Dieu. Donc, encore une fois, la terre ici, le sol ici n'est pas sanctifié par de l'eau particulièrement précieuse ou quelque chose comme ça, mais c'est la présence de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons enlever nos souliers devant lui. Quand nous enlevons nos souliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand nous enlevons nos souliers devant Dieu, nous reconnaissons la puissance de Dieu. Nous reconnaissons que c'est lui le Tout-Puissant. Ça demande une attitude d'humilité, n'est-ce pas? De reconnaître que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est Dieu qui est tout capable dans notre vie. Il est capable de tout, de secourir ceux qui souffrent. Quand nous enlevons nos souliers, au moins dans la façon spirituelle, comme je viens de voir avec mes propres souliers, moi je suis descendu un petit peu. J'ai prévu ça parce que j'avais pas de lacets sur mes souliers, mais sinon j'aurais dû descendre encore plus. Pour moi, l'idée de s'abaisser, l'idée de s'agenouiller, ça, c'est un bon rappel que notre attitude doit changer quand nous enlevons nos souliers. Notre attitude nous aide ou nous empêche d'apprendre chaque jour, chaque fois que nous nous présentons devant Dieu. Dieu travaille ici, il travaille dans le cœur de l'homme pour créer quelque chose qui va durer au-delà de tout ce qui est physique. Quand nous nous baissons, quand nous enlevons nos souliers, nous nous présentons avec un peu moins de force, avec un peu moins de force, un peu plus bas, si vous voulez, pour continuer cette analogie. Nous avons cette opportunité de se souvenir que notre attitude, quand nous nous présentons devant Dieu à son assemblée, à cette assemblée, notre attitude doit être préparée d'avance. Donc, nous réfléchissons peut-être à 1000 choses pendant la semaine. Je sais que avec 3 enfants à la maison, avec beaucoup de choses qui se passent chaque semaine, c'est comme des fois la vie ne s'arrête pas pour qu'on puisse prendre la pause, pour qu'on puisse ralentir un petit peu. Mais c'est important quand même de préparer notre esprit, notre pensée avant de venir à l'assemblée ou avant de commencer. Et c'est pour ça que nous chantons aussi des cantiques. Et je voudrais aussi remercier ceux qui se sont présentés la semaine dernière pour apprendre à diriger les cantiques, parce que c'est un point important dans notre présence de Dieu. Considérant Jacques chapitre 5, c'est une opportunité. Nous ne sommes pas forcément ordonnés de chanter à haute voix dans ce sens-là, mais nous sommes ordonnés de rendre des louanges à l'Éternel, et c'est l'une des façons que nous pouvons le faire. Jacques chapitre 5, des exhortations diverses et variées ici. Verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » C'est intéressant pour moi que ce verset 13 résume pas mal de choses de ce que je viens de dire vis-à-vis de la présence de Dieu. Parce que soit on souffre des fois, soit on se réjouit. Dans les deux cas, on est censé de s'approcher de Dieu. Et ici, nous avons la possibilité de chanter des cantiques devant Dieu. Nous chantons parce que c'est notre cœur qui déborde de joie. Ou même, moi j'ai déjà chanté, est-ce que vous avez déjà chanté quand vous souffriez? J'ai déjà chanté quand je souffrais, moi, dans le passé. C'est comme une sorte de connexion entre nous et notre Dieu Tout-Puissant. L'idée de chanter, c'est comme si il y a de la lamentation dans le cœur qui doit se libérer et que nous dirigeons notre pensée envers Dieu pour demander de l'aide, tout en chantant. Des fois, on n'a pas les mots pour exprimer notre besoin. Des fois, on se reporte quelque part, on se trouve dans les cantiques, dans les psaumes, et on va trouver un cantique dans les psaumes qui est vraiment l'un des psaumes qui touche vraiment à tout ce que nous vivons dans le moment actuel. Et comme je vous ai déjà dit dans le passé, avec chaque phase de la vie, avec chaque année. On peut revenir sur ces psaumes, sur les psaumes dans la Bible, et on peut les voir d'une façon ou d'une autre. On peut les voir d'une façon, d'une perspective différente. Ce sont les mêmes cantiques, ce sont les mêmes psaumes, mais c'est nous qui changeons de perspective des fois. Des fois, on est prêt pour apprendre certaines leçons. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, le cœur n'est pas prêt pour recevoir. Et des fois, des choses arrivent qui font que nous sommes prêts. Quand nous enlevons nos souliers, nous permettons à Dieu de, dans un sens, de nous réunir. Si vous pouvez imaginer que certaines personnes dans ce monde n'ont même pas les moyens d'acheter des souliers, ils se baladent partout sans souliers jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, dans certains cas, je ne sais pas, mais certains ne peuvent pas du tout acheter, ça ne serait pas une question d'acheter même un paire de souliers. Donc, quand on enlève les souliers, on reconnaît le fait que on a ceci en commun. On est tous humains. On est tous unis dans ce même niveau, si vous voulez. Encore une fois, dans Jacques, chapitre 2 maintenant, certaines choses peuvent nous distinguer les uns des autres pour le bien ou pour le mal. Mais Jacques nous rappelle que notre niveau économique, notre budget, notre revenu n'est pas censé de nous séparer les uns les autres. Nous sommes là comme un seul corps, un seul esprit, et nous sommes là ensemble comme un peuple de Dieu. Quand nous enlevons nos souliers, nous avons ce rappel du fait que nous devrions nous traiter les uns les autres égal, ou au moins sans favoritisme. La Bible dit favoritisme ou acceptation de personne. Lisons Jacques 2 ici, le verset 1. Nous avons en tête ici, c'est très bien dépeint ici, ça nous donne la possibilité d'imaginer encore une fois la salle d'assemblée. La salle d'assemblée. Verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et on peut peut-être ajouter sans souliers, hein? On peut juste imaginer que cette personne n'ait pas de souliers, même si c'est pas écrit, mais misérablement vêtu, même. Verset 3. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. intéressant que le fait de venir ici, le fait de venir tous ensemble dans la salle d'assemblée nous permet, bien sûr, d'être réunis dans un seul lieu, mais aussi de reconnaître que nous sommes tous les bienvenus en présence de Dieu, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Nous ne devons pas considérer nos frères juste parce qu'ils sont riches, ou nous ne devons pas mettre ceux qui sont riches et capables en avant, mais mettre les pauvres, ceux qui sont avec rien, en arrière. Ça nous rappelle que Dieu juge le cœur. Il ne juge pas les souliers de l'homme. Il juge le cœur de l'homme. Et c'est là, encore une fois, c'est là le travail de Dieu. Dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est là où on a besoin de lui le plus. On peut souffrir de ne pas avoir les souliers. On peut souffrir de ne pas avoir les moyens. Mais les souffrances, les pires de la vie sont ici, dans le cœur. Les gens se demandent des fois, pourquoi, quand on va en Afrique, il y a tout le monde qui rit, tout le monde qui joue dans la rue, tout le monde qui fait la fête là-bas, dans les villages. Et en ayant très peu, en vivant de jour en jour avec juste un tout petit peu, c'est parce que eux, ils ont ajusté leur vie au niveau physique et ils peuvent se réjouir parce qu'ils sont capables de se réjouir parce que ce n'est pas sur les choses physiques qu'ils se réjouissent. Mais ils pensent beaucoup plus à la famille, ils pensent beaucoup plus aux enfants. C'est des fois l'un des premières questions que vous avez quand vous allez en Afrique. Combien d'enfants avez-vous? Des choses comme ça. On parle beaucoup de la famille. On ne parle pas tout de suite forcément de notre métier, mais on va parler beaucoup plus de la famille. Quand nous enlevons nos souliers, est-ce que nos pieds sont un peu plus sensibles? Est-ce qu'ils sont un peu plus sensibles? Par exemple, ici, je sais que l'hiver, ma femme, je crois que 100% du temps, elle, presque jusqu'au lit, jusqu'à la soirée, elle va porter ses slippers, ses petits bottes ou quelque chose pour garder les pantoufles, bien sûr, pour garder les pieds bien chauds en hiver. Donc, pendant presque quelques mois, les pieds ne vont pas toucher le sol dans la maison. Ils ne vont pas toucher le sol. Elle n'a pas envie de sentir le froid. Et des fois, nous aussi, dans la vie, nous n'avons pas envie de sentir la souffrance, de sentir les choses qui se passent. Donc, on va s'isoler un petit peu, au plus tôt ou au maximum, pour résister ces choses. Et on devient des fois un peu froide, on peut devenir froide, pour quand on essaye d'éviter, quand on coupe l'émotion et on reste juste dans le cartésien, dans la logique. Mais quand nous enlevons nos souliers, nous ressentons quelque chose, nous ressentons le sol, nous ressentons notre équilibre, nous retrouvons l'équilibre un peu différemment. Est-ce que vous saviez que les enfants, les tout-petits, ils ont essentiellement besoin de marcher à l'âge très peu, quand ils commencent à marcher, à apprendre à marcher, ils ont le besoin de marcher sans souliers. Ils ont vraiment besoin de ne pas avoir des souliers en tout temps. Parce que s'ils enlèvent les souliers, s'ils n'ont pas de souliers, c'est les pieds qui commencent à faire le développement dans le cerveau de l'équilibre et qui commence à développer comment l'enfant va marcher. Donc, il est très important pour un tout petit de marcher sans souliers, beaucoup plus qu'avec des souliers. C'est cette sensibilisation qui est intégrale, qui est dans nous. Dieu voudrait que quand on se présente devant lui, on soit, dans un sens, exposé, dévoilé, ouvert aux leçons que Dieu prépare pour nous. Quand on va étudier la Bible, nous devons nous préparer pour recevoir de l'instruction. Presque chaque sabbat, on demande dans la prière d'ouverture ici que Dieu ouvre les oreilles et les cœurs ici pour qu'on reçoive l'instruction qui est prévue et qui est préparée pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas tout le monde qui va ressentir exactement la même chose, mais c'est important de ressentir quelque chose, n'est-ce pas? Encore une fois, ça demande une préparation avant de venir, mais quand on réfléchit à l'importance de venir ici et d'être touché, d'être coupé par la parole de Dieu, ça nous met dans la bonne attitude, dans la bonne perspective. Quand on enlève les choses, quand on enlève les souliers, est-ce que vous avez déjà récemment marché sur à l'extérieur, peut-être cet été, hein? Pas tout de suite, mais vous avez peut-être marché sur des pierres et vous avez dit, quand j'étais plus jeune, ça faisait pas mal, mais maintenant, ça me fait mal de marcher sur des petites roches, des petites choses comme ça. Des fois, c'est l'âge et avec le temps, on perd l'habitude de marcher sans souliers et les pieds deviennent de plus en plus sensibles. Dans une mauvaise façon. Quand on enlève les souliers, quand on marche par terre comme ça, on peut développer une résistance et une sensibilisation à ce qui se passe. Donc, spirituellement, nous venons ici, nous enlevons nos souliers et nous sommes prêts pour recevoir les leçons. Et des fois, l'encouragement, des fois la correction. J'espère que ce n'est pas trop froid dans la salle maintenant, si vous avez enlevé vos souliers. Nous venons ici aussi, frères et sœurs, et nous enlevons nos souliers parce que nous reconnaissons notre besoin d'être lavés aussi. Nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ qui a besoin de nous laver. Et encore, après ça, il nous a ordonné de faire comme lui, de laver les pieds les uns les autres. Considérons Jean 13. C'est certain que chaque année, lors de la Pâque, c'est quelque chose que nous faisons en suivant l'instruction de Jésus-Christ. Nous enlevons nos souliers, nous enlevons même les chaussettes et nous commençons dans une partie de la cérémonie à nous laver les pieds les uns les autres. Est-ce que vous saviez ça déjà, les enfants? Que chacun ici, qui est membre de l'Église, a déjà fait ça? Peut-être l'un a lavé les pieds de l'autre? C'est ce qu'on fait en suivant l'exemple et l'instruction de Jésus-Christ. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, c'est lors de la fête de la Pâque, c'est alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Encore, ceci, ça se place Jésus dans un rôle de serviteur. L'idée d'enlever ces choses, de faire ceci avec ce linge, c'est un marque aussi d'humilité. Verset 5, « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Donc, c'est son exemple. Mais est-ce que ces apôtres, est-ce que ces disciples étaient prêts à recevoir ce que Jésus avait préparé? Est-ce que leur mentalité, leur perspective était plus comme celui de Pierre ici? Verset 6, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et puis voilà, on voit un gros changement dans la perspective de Pierre. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné ou lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Mais cet exemple ne s'arrête pas là. Déjà, on reconnaît le besoin d'être lavé par Jésus. Mais ça va bien plus loin. C'est notre lavement, si vous voulez. Nous sommes pas en nous, nous sommes pas purs. C'est Dieu qui nous purifie. C'est Dieu qui fait en sorte que nous soyons saints, que nous soyons mis à part, que nous soyons pardonné de nos péchés. Considérant, en gardant la place ici, Romains 3. Romains chapitre 3, un petit peu plus loin. Romains 3. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Mais nous avons notre part à faire aussi. Nous devons enlever les souliers, nous devons reconnaître ce besoin et reconnaître que c'est Dieu qui prévoit ce processus de pardon. Romains 3 et le verset 21, « Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Donc nous avons besoin de recevoir la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin de recevoir ce pardon, d'être lavé, d'être pur, d'être mis à part, sanctifié pour le rôle que Dieu est en train de préparer pour nous, pour chacun d'entre nous individuellement aussi. Et comme je vous ai déjà dit en référence, reportons-nous de nouveau à Jean 13 pour continuer le récit ici. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Pour qu'on enlève les souliers, pour que Jésus puisse laver nos pieds, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous devons agir pour recevoir ce que Dieu prévoit pour nous. C'est donner à ceux qui répondent. Nous avons déjà mentionné dans Jean 6 que c'est Dieu qui appelle, c'est nous qui répondons. Donc, verset 12, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements. » Ça va? Il se mit à table. Il se mit à table. Il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La pratique, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est ce que Dieu demande de nous chaque jour, chaque semaine, chaque année, la pratique de ces choses. Des fois, nous avons une grande opportunité de pratiquer certaines choses. Des fois, nous attendons l'opportunité de pratiquer certains aspects de la vie chrétienne. Et on travaille sur d'autres aspects. Mais on est toujours en train de pratiquer ce que nous apprenons, la parole de Dieu, le pain qui est descendu du ciel, la parole vivante et puissante, double tranchante. Donc nous avons ici un rappel, encore une fois, que nous avons quelque chose en commun. Nous avons tous besoin d'être lavés et ce n'est pas tout. Nous sommes ici parce que nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin les uns les autres et nous ne devons pas laisser les choses nous empêcher de rendre service les uns les autres. Que ce soit le lavement des pieds pour symboliser notre humilité les uns envers les autres ou que ce soit de rendre service à un frère qui a besoin. Est-ce que nous allons remettre nos souliers maintenant? Est-ce que nous allons remettre nos souliers avant de partir aujourd'hui de l'Assemblée? J'espère que oui, parce que il pleut à l'extérieur et vous aurez peut-être besoin de les déporter. Mais si vous voudrez continuer la leçon, vous êtes les bienvenus. Mais je sais pas moi qui vous a dit de continuer ça. Mais dans un sens spirituel, quand nous allons quitter cette salle aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer avec l'attitude, avec l'humilité, avec les leçons que nous avons apprises ici? Et est-ce que nous le faisons chaque semaine et chaque jour? Encore une fois, la pratique. Nous sommes appelés à vivre différemment, à marcher en nouveauté de vie, n'est-ce pas? À quitter le chemin qui mène à la mort, la voie qui mène à la mort, et à rejoindre la voie qui mène à la vie. Nous sommes censés de marcher en suivant l'exemple de Jésus-Christ et ceux qui le suivent. Nous sommes censés de garder les yeux attentivement sur le chemin que nous entreprenons aussi, parce que on peut quand même se faire mal. On peut trébucher même. On peut trébucher. C'est intéressant parce que des fois, quand on pense, quand on réfléchit, on ne fait pas trop attention à nos pieds. On ne pense pas beaucoup. On pense. Et puis, c'est comme si les jambes, les pieds, ça fonctionne tout seul, n'est-ce pas? Mais dès que nous sommes sur un précipice ou sur un sentier qui est un peu rocheuse, quelque chose comme ça, là, on commence, mais peut-être ici au Québec, c'est mieux de dire si on est sur la glace, par exemple, ou dans un endroit où il y a de la glace. Mais dès qu'on se met en hiver, on va changer notre façon de marcher, on va faire attention avec les souliers, et on va essayer de faire attention avec ce que nous disons, avec ce que nous faisons, avec les actions que nous entreprenons, parce que la façon de dire, la façon de faire, impacte le résultat aussi. Donc, Jésus-Christ nous a donné l'exemple que nous pouvons servir, nous pouvons rendre service les uns aux autres avec une bonne attitude. Et puis, Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 13 que tout ce que nous le faisons avec une attitude d'amour. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Dans un sens, pour nous, ce n'est pas édifiant de servir dans une façon sans amour. 1 Corinthiens 13, il nous donne tout un exemple, toute une liste de choses. Nous avons envie de servir, mais est-ce que nous servons les uns les autres en enlevant les souliers, en se mettant tous sur le même niveau, si vous voulez, tous ensemble? Verset 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant, qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et il continue, bien sûr, avec toute une description de choses qu'on peut faire en amour, les uns envers les autres. La puissance, le pouvoir de l'amour exprimé, l'amour démontré, l'amour en action, tout comme la foi en action. La foi que Jacques nous mentionne est une foi vivante, est une foi qui est en action. Nous avons tous devant nous un gros défi, c'est de s'occuper d'une petite famille ici dans l'Église et aussi de continuer à s'en occuper des uns des autres dans les semaines, dans les mois à venir. Nous sommes là pour servir, nous sommes là pour donner, nous sommes là pour donner libéralement et pour demander de l'inspiration, de l'instruction pour le bon chemin que Dieu nous amène à faire le bien les uns pour les autres. Nous développons les caractères, nous développons ces attributs, ces points de caractère de Jésus-Christ, nous développons les béatitudes, si vous voulez, Matthieu 5 aussi. Notre attitude compte quand nous considérons l'importance que nos pieds joue dans notre quotidien pour nous empêcher de tomber. Nous sommes rappelés que enlever les souliers, c'est plein de signification pour chacun d'entre nous. Surtout quand nous nous présentons devant Dieu, si nous cherchons vraiment son instruction, si nous cherchons vraiment qu'il nous change de l'intérieur à l'extérieur, nous allons nous approcher de lui avec une attitude qui est pieds nus, si vous voulez, sans souliers. Et en faisant cela, Dieu va nous aider, Dieu va nous guider, Dieu va nous donner ce qu'il nous faut. Il s'occupe de nos besoins. Et nous suivons cet exemple et nous nous occupons les uns les autres. Encore une fois, considérant Exode 3, avant de terminer aujourd'hui. Exode 3. Juste après le verset 5, où l'Éternel explique, il explique à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est comme un avertissement pour lui, n'est-ce pas? C'est un avertissement que, bien, il doit obéir, il doit reconnaître que le pouvoir avec lequel il est en train d'interroger lui dépasse tellement que même là où il met sa présence, ça devient un endroit saint. Verset 6, et il ajoutait, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit, frères et sœurs? Verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il y a tellement d'applications pour chacun d'entre nous. Lorsque nous souffrons, l'Éternel nous entend. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canaans, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'Éternel a noté la souffrance. Il a appelé Moïse et il a donné une mission à servir, une mission à accomplir sa volonté pour le peuple qui souffrait. Aujourd'hui, nous avons un grand parallèle. Dieu nous a appelés, pas pour rien, mais pour participer pleinement dans son Église, pour participer pleinement les uns pour les autres. C'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a appelés ici. C'est lui qui nous donne la possibilité de se présenter ici et d'enlever nos souliers pour apprendre et pour rendre service les uns aux autres. Moïse a répondu à l'appel. Moïse a dit, « Qui suis-je pour faire ceci ?» Alors, frères et sœurs, ce n'est pas notre force qui va servir le plus, c'est la force de Dieu. Verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, on dépend de lui et on demande son intervention et on est prêt à faire ce que lui demande de nous. Nous sommes là, nous pouvons remettre nos souliers maintenant. La leçon est terminée. Mais n'oublions pas les leçons que nous avons apprises. Il y en a peut-être bien d'autres aussi. Les leçons sont là pour nous. La Bible est pleine d'instructions, pleine d'encouragements. Donc, encourageons-nous les uns les autres avec ces paroles.